Comment ne pas se sentir interpellé par les situations qui ont eu lieu aux États-Unis au cours des dernières semaines, des derniers jours, des dernières heures, différentes situations avec la même thématique en toile de fond, des actes à connotation raciste, que ce soit une dame dans un parc qui appelle 911 en jouant la comédie comme si elle était en détresse totale pour qu'on intervienne parce qu'elle dit se sentir menacée par un homme noir qui observe des oiseaux et qui brandit sa caméra de téléphone pour être sûr de ne pas être dans une situation où il n'y aura pas de preuve pour se déculpabiliser. Finalement, la dame a perdu son emploi, que ce soit l'assassinat par le fils d'un ancien shérif accompagné de son père, et dont l'arrestation des deux hommes est survenue 74 jours après l'assassinat de Ahmaud Arbery, qui faisait du jogging, un jeune Afro-Américain de 25 ans, que ce soit pour les images qu'on a vues de ce jeune homme qui est en pleurs sur une terrasse devant la maison de sa mère récemment, qui implorait les policiers de ne pas tirer alors qu'il était à plat ventre sur le gazon et qui faisait rien de menaçant. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour que les policiers cessent ou abandonnent leur position en joue, là, comme si on allait l'exécuter. Une mère américaine qui confiait à CNN cet après-midi qu'elle ne peut plus laisser aller son fils, elle lui disait auparavant, si jamais tu te fais arrêter comme ça lui est arrivé récemment, juste pour avoir brûlé un stop, eh bien, obéis, soumets-toi, fais tout ce qu'il demande. C'est exactement ce que George Floyd semble avoir fait à Minneapolis et pourtant, il en est mort de s'être soumis sans poser aucune résistance. À l'époque de Rodney King, les policiers qui ne savaient pas qu'ils étaient filmés regardaient de temps en temps dans leur dos pour voir si quelqu'un les avait piégés ou si quelqu'un pouvait voir s'il était témoin d'actes semblables. Là, au moment où les policiers sont très, très conscients qu'il y a des caméras tout le tour d'eux, c'est en plein calme qu'on a étouffé jusqu'à la mort George Floyd, même si les rapports d'autopsie qui ont été ce qu'on appelle leakés, où il y a eu des fuites, révèlent qu'il n'y aurait pas de lien avec une strangulation dans le décès de la victime. Bref, toute cette mise en contexte pour nous amener dans l'État du Minnesota, à Saint-Paul, Minneapolis, où on va aller retrouver quelqu'un qui a pris part aux manifestations qui se voulaient pacifiques, un Français d'origine, Freddy Pozine, qui est établi dans l'État du Minnesota depuis une vingtaine d'années, analyste financier de carrière et qui se sent clairement interpellé par le besoin de justice sociale aux États-Unis. M. Pozine est au bout du fil. M. Pozine, bonsoir.
Bonsoir, Mario.
Comment allez-vous?
Mais ça va très bien, je vous remercie. Ça va mieux. Ça va mieux.
Croyez-vous que la mise en accusation d'un des quatre policiers, donc Derek Chauvin, peut servir à calmer le jeu un peu? Est-ce que ça va freiner de prochaines manifestations?
Je l'espère. Je l'espère de tout cœur. Je pense que il était très clair mardi, durant la première manifestation, que les gens étaient très motivés pour avoir justice. Mercredi, le ton était vraiment différent. Ils ont commencé à brûler des buildings et des immeubles et c'était différent, mais les gens sont vraiment en colère avec tout ce qui se passe, que ce soit en Géorgie ou ailleurs. Nous, dans le Minnesota, on a eu l'expérience avec Philandro Castile il y a quelques années, où il a été descendu sans raison. Enfin, sans raison. Bon, ils ont trouvé les raisons, mais ça paraît vraiment injuste. Et une des choses que je disais à un des amis sur Facebook, c'est ça ne serait jamais arrivé si la personne avait été blanc. Si ça avait été un blanc,
J'entendais Freddy en conversation avec une collègue du réseau de l'information d'RDI, ici à la télévision canadienne francophone, où vous disiez que vous, comme blanc, vous sentez pas votre vie menacée quand vous sortez dans les rues. Mais là, avez-vous senti votre vie menacée en participant à ces manifestations? Sentez-vous qu'il y a une différence entre être blanc ou être noir si on sort dans une artère publique à Saint-Paul ou Minneapolis?
Ça fait une différence, mais pas pour moi. Je me sens pas plus en danger maintenant parce que je suis blanc. Mais par contre, les gens de couleur se sentent beaucoup plus en danger. Et ils sont obligés d'avoir, j'ai un fils de 16 ans, ils sont obligés d'avoir des conversations avec leurs enfants pour justement les préparer, que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de bavure. Mais moi, j'ai pas... Non, justement, j'ai conduit une voiture il n'y a pas mardi soir quand je suis rentré, j'étais suivi par une voiture de police. Bon ben, je savais que j'étais à la vitesse autorisée. J'ai pas été nerveux, mais il y a des gens et surtout des gens de couleur dans les quartiers défavorisés où ils sont très nerveux quoi. Dès qu'ils sont suivis par les policiers ou regardés de travers, c'est dangereux quoi.
Ben certainement.
C'est dangereux pour eux.
Certainement, j'entendais un témoignage d'une mère, une comédienne bien connue aux États-Unis d'ailleurs, qui disait que là, de laisser son fils partir, Tu peux,
ah ouais.
L'idée peut te passer par la tête qu'il pourrait ne pas revenir juste parce qu'il a brûlé un arrêt, un stop et qu'il est tombé sur le mauvais numéro, sur le mauvais policier. Comment les premières ou la première manif s'est organisée? Est-ce que c'était de façon spontanée, Freddy? Comment avez-vous eu envie d'aller vous joindre à une manif? Est-ce que c'est les médias sociaux? On dit on se rejoint à telle heure, à tel endroit? Ou comment ça s'est présenté tout ça?
C'est les médias sociaux. On savait déjà le matin quand j'ai vu la vidéo et que j'étais vraiment perturbé, choqué, enfin, parce que je ne m'attendais pas à voir une vidéo comme ça. Et quand j'ai vu ça, bon, ben, ça m'a. J'étais pas le seul, bien sûr, que ça a choqué. Et je crois que la première manifestation a été organisée par NAACP, l'organisation des Noirs américains.
D'accord.
Et je retrouverai les initiales, mais. En général, il y a toujours des organisations qui sont soit pour protéger les immigrants ou pour la justice sociale ou contre la guerre. Et assez fréquemment, bon bah comme je les suis sur les réseaux sociaux, je savais qu'il allait y avoir un événement. Je savais qu'il allait y avoir un gathering. La dernière fois, pour Philando Castile, les gens s'étaient retrouvés devant la maison du gouverneur. À l'époque, c'était Mark Dayton. Et là, je savais que ça allait être quelque part. Donc, pour le mardi soir, c'était à l'endroit où il est décédé. Il y a eu des fleurs, il y a eu des discours. Et puis, en fait, tout le monde a marché vers le commissariat du 3e arrondissement.
Et c'est là que ça a dégénéré. C'est au commissariat, c'est ce bâtiment auquel on a mis le feu, c'est ça?
Oui, c'est celui-là.
Donc, vous étiez tout près de là quand le feu a pris? Étiez-vous là?
Non, je n'étais pas là parce que le mardi soir, je ne suis pas allé jusqu'au commissariat parce que la route était longue, je ne savais pas exactement et j'avais des choses à faire. Donc, je suis retourné chez moi. Et mardi soir, il y a eu des dégradations, mais il y a eu des tags et une voiture de police détruite. Mais le commissariat n'était pas vraiment attaqué. Mardi soir, il y avait beaucoup de gens avec des familles, des gens qui voulaient vraiment voir la justice. C'est mercredi soir que ça a commencé à vraiment brûler. Où ils ont brûlé les magasins autour, AutoZone et ce genre de choses. Ils ont pillé Target. Et c'est jeudi soir. Dans la soirée, il y avait une manifestation dans le centre-ville de Minneapolis. Et là, il y a eu environ 4000 personnes. Et j'ai assisté à cet événement parce que c'était devant le Hennepin County Government Center. C'est là où il y a en fait Mike Freeman,
Le gouverneur ou le maire? Non, c'est l'attorney general, c'est le,
oui.
Comment on dit ça? Donc, le
procureur.
Le procureur, merci, ouais. Excusez, on le cherchait.
J'ai du mal aussi sur les titres. Et donc, c'est là où il y a le procureur. Donc, c'était vraiment pour signaler que les gens voulaient justice et voulaient que ça se fasse. Ça a été pacifique. Je suis rentré chez moi vers les 20h et c'est vers les 22h que le commissariat du 3e a complètement brûlé avec beaucoup de magasins autour et de petits commerces.
Et justement, par rapport à ça, bon, il y a eu de la casse, mais parfois, vous avez peut-être assisté à des célébrations pour un championnat d'une équipe de sport. Parfois, il y a des gens qui veulent célébrer dans l'allégresse, dans la joie, et il y a des opportunistes ou des malfaiteurs qui viennent faire de la casse. Croyez-vous que les incidents de vandalisme, c'est vraiment des manifestants de bonne foi qui se sont emballés à vouloir exprimer leur colère ou vraiment ce sont des casseurs qui sont venus un peu, si vous voulez, changer la perception qu'on avait des manifestations?
Je pense qu'il y avait un peu des deux, et surtout mercredi soir et jeudi soir, parce qu'il y avait vraiment une colère contre la police et des provocations de la police aussi, même au commissariat, où il y avait des moments où ils envoyaient les gaz sans raison apparente. Ils envoyaient les gaz ou ils tiraient des rubber bullets. Donc ça, c'était de l'antagonisme. Il y avait des gens de l'autre côté qui lançaient des bouteilles, tout ça. Donc, à mon avis, pour le commissariat, il y avait un peu des deux. Par contre, moi, j'habite à Saint-Paul et jeudi, ils ont commencé à casser, à essayer d'aller dans un autre Target et de brûler d'autres magasins. Et il y a eu du pillage. Tous les pawn shops, les pharmacies, les liquor stores, les magasins de boissons, d'alcool ont été pillés. Et là, c'était du systématique. Hein. Et c'était pas des gens qui voulaient protester pour avoir la justice. c'est des gens qui en ont profité, qui ont profité un peu du chaos, quoi. Donc là, ce soir, il y a le couvre-feu.
Oui.
À Minneapolis et à Saint-Paul.
Quelle est la consigne? Jusqu'à quelle heure avez-vous le droit d'être à l'extérieur ce soir?
Ça va de 8 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Et il y a beaucoup plus de policiers dans les Twin Cities, là, en ce moment. Parce que, bon, il y a l'armée qui est venue renforcer, mais il y a aussi, aussi les banlieues d'à côté qui aident avec les effectifs. Donc, entre ça et le fait que Derek Chauvin a été arrêté, je pense que, j'espère que ça va bien se passer. C'est-à-dire que je pense que les gens comme vous et moi, des gens qui veulent de la justice sociale ou qui veulent que le mal soit réparé ou moins justifié, vont rester chez eux. Mmh. Donc, en fait, il y a de fortes chances pour que les gens, s'il y a de la casse, ce sera vraiment des casseurs et pas des gens qui viennent manifester de bonne foi, quoi.
Oui, tout à fait. Avez-vous, puisque ça s'est passé également à Minneapolis ou Saint-Paul, je ne sais pas exactement, mais on a tous été troublés. J'énumérais une succession d'actes où il y a eu clairement du racisme, mais dans les heures qui ont suivi, ça a pris 3 jours pour procéder à l'arrestation de Derek Chauvin, donc qui est le policier qui avait le genou avec tout son poids sur le cou, sur la nuque de la victime, George Floyd. Ça a pris 3 jours pour qu'on le mette en accusation. Pourtant, ça n'a pris que quelques instants pour que la garde nationale, les Robocop représentant la garde d'État passe les menottes aux mains d'un reporter d'origine, je crois, hispanophone ou afro-américaine, mais clairement un reporter de couleur, de voir ça en direct, en pleine télé. On aurait pu pas... Je fais juste imaginer la réaction d'un gouvernement américain si un reporter américain de CNN se fait faire la même chose à Bagdad, en Chine, ou en Corée du Nord, ou dans un pays totalitaire, quelle aurait été la réaction? Et ça s'est passé pourtant en sol américain. C'est pas un meurtre, mais je trouve que c'est comme un autre symbole de la dégradation du climat social aux États-Unis. Incroyable qu'on se sente légitimisé d'agir ainsi comme autorité policière.
Le gouverneur de l'État du Minnesota s'est excusé auprès du responsable de CNN de l'arrestation qui n'aurait pas dû arriver. Il y a aussi le procureur qui disait que il a fait une arrestation record parce que ça n'a pris que 2-3 jours. Enfin, c'était relativement rapide. Bon, je comprends qu'ils veuillent certains éléments de l'enquête d'être réunis parce que même après mardi, bon, il y a eu d'autres vidéos qui ont montré justement que George Floyd n'avait pas résisté parce qu'au départ, les flics disaient qu'il avait résisté l'arrestation.
Oui.
Et non, ils ont trouvé des caméras en dehors du magasin avec le film qui pouvait prouver le contraire. Et donc, je comprends qu'ils veuillent réunir des informations de façon à ce qu'il n'y ait pas des contradictoires, mais si ça avait été vous et moi, on aurait été en prison tout de suite.
Hein. Absolument, absolument.
Quand et je si dis ça avait ça... été l'inverse, si ça avait été un flic par terre et quelqu'un d'autre, un civil, faire l'inverse, il aurait été descendu tout de suite.
Il est rare qu'on mette en accusation aussi rapidement un policier tel que l'a affirmé le gouverneur démocrate, c'est vrai, mais ça a quand même pris 3 jours. Mais heureusement que c'est survenu, je pense que ça contribue à calmer le jeu. Et j'ai envie de vous demander au plan personnel, Freddy Pozzino, vous êtes établi là depuis 20 ans aux États-Unis, dans l'État du Minnesota. Pour un Blanc qui arrive dans les rues dans un climat aussi tendu avec un chandail que vous portez fièrement, Black Lives Matter, c'est un engagement politique. Il y a quelques semaines, c'était le masque qui devenait un engagement politique de porter ce chandail. C'est quoi le sentiment intérieur quand vous vous promenez dans les rues du Minnesota avec votre chandail?
Moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que j'ai pas de problème à affirmer mes convictions. Je me suis jamais vraiment senti en danger. Est-ce que je l'aurais porté au moment où il y avait tous les gars avec leurs fusils mitrailleurs au Capitole pour aller avoir leur coupe de cheveux? Je pense que oui. Je pense que oui, ils seraient moqués de moi, ils auraient dit ce qu'ils voulaient, mais je pense que je l'aurais quand même porté, parce que pour moi, j'estime que les minorités, et surtout la communauté afro-américaine, doit être représentée. Et le Minnesota, c'est un État formidable. On est premier dans plein de catégories, avec des grandes entreprises, le niveau de santé, le niveau de vie qui est bien, excepté pour les disparités entre les Noirs et les Blancs. Où là, les Africains-Américains sont vraiment défavorisés économiquement et en termes que ce soit scolaire ou d'emploi ou d'accès à pas mal de choses quoi qu'on a normalement. Donc, je suis fier de le porter. J'ai jamais eu de problème avec. Et puis, j'ai continué à le porter, quoi.
Ben, bravo, parce que ça prend probablement du courage, alors que c'est si facile de ne rien faire ou de ne rien revendiquer dans les circonstances.
Mais si on ne fait rien, il n'y a rien qui change.
Exactement. Ouais, c'est bien dit. Êtes-vous déjà venu faire un tour au Québec, vous qui êtes en Amérique depuis 20 ans?
Non, pas encore.
Péché criminel. Non, je vous taquine. Ben oui, mais vous nous ferez signe si vous venez faire un tour de façon à ce qu'on fasse connaissance en personne. Mais merci beaucoup, Freddy, d'avoir répondu à nos questions. Et peut-être, si vous êtes disponible, on va peut-être se reparler selon l'évolution des choses là-bas. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous.
Avec plaisir. Avec plaisir et quand vous voulez.
Au revoir. Merci beaucoup, Freddy.
À bientôt. Au revoir.
Freddy Poisine, résident de Minneapolis, donc depuis une vingtaine d'années, originaire de Paris, qui assiste à tout ça de près et qui non seulement y assiste, mais qui est un citoyen engagé dans la défense des droits des minorités.